France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Peut-être l'ignorez-vous, mais depuis 2010, la Caisse d'allocation familiale attribue des notes, un score, à ses 13 millions d'allocataires pour orienter ses contrôles. Elle appelle ça un classement, d'autres une façon de les cibler et de les discriminer. Plusieurs médias, dont la Quadrature du Net, une association de défense des libertés numériques et le quotidien Le Monde, ont réalisé des enquêtes très détaillées sur la méthode employée par la CAF, qui s'appelle le data mining, et l'algorithme utilisé. En gros, le data mining, c'est une technique de statistique prédictive qui croise différentes données pour identifier les risques d'erreur ou de fraude dans un dossier d'allocataire. Toute la question consiste donc à savoir quels sont les critères utilisés pour établir les scores de risque et déclencher le contrôle, et donc quel est le code source de l'algorithme. Il faut lire les enquêtes que j'ai citées en détail, on les mettra sur la page des pieds sur terre, mais ce qui en ressort, entre autres, c'est le ciblage très net des familles monoparentales, dont 80% sont des femmes. On parle d'elles aujourd'hui dans les pieds sur terre et de la façon dont leur vie bascule quand leurs aides sont suspendues pour quelques centaines d'euros ou parfois pour rien du tout, elles qui peinent déjà à joindre les deux bouts. C'est ce que racontent tout de suite Marion et Sarah au micro de Clémence Alezard.
Je m'appelle Marion, j'ai 3 enfants. Je suis maman célibataire depuis 2008 et ma troisième est née en 2009. J'habite Lyon et je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai 47 ans. Je me suis retrouvée célibataire après le fait que le papa de mes enfants, j'étais enceinte de la troisième, est parti du jour au lendemain. Avant ça, c'était une vie de couple avec des projets, même une vie de couple des fois pas évidente, mais... Il est parti et j'ai demandé à ce qu'on passe devant un juge des affaires familiales pour avoir un jugement de divorce et de garde. Le juge a acté d'une pension minimum pour les 3 enfants. J'avais la garde exclusive et que lui les avait un week-end sur 2 et j'ai fait en sorte que le lien ne soit pas coupé quand même. Donc même s'ils étaient petits et notamment pour le bébé... Il pouvait pas forcément le prendre et tout ça. Mais par contre, on a fait en sorte qu'il les voit un week-end sur deux. Ça a mis du temps à se mettre en place. Pour les finances, c'était autre chose. Il n'a pas forcément respecté le versement de la pension et tout ça. Quand on devient mère célibataire, on... doit se déclarer en tant que parent isolé à la caisse d'allocation familiale. Il y a la mise en place de certaines aides de la CAF, allocation parent isolé, je crois. C'est tout ce qui existe. Il y a d'autres aides qui existent, comme les allocations familiales, mais ça, c'est en fonction des revenus et du nombre d'enfants dans le foyer. Enfin, j'ai eu des prestations sociales qui m'ont beaucoup aidée à hauteur de 600 euros par mois. À peu près. Seul un salaire pour faire vivre une famille, c'est très compliqué. Du coup, c'est des aides qui sont cruciales. J'aimerais bien que mon salaire couvre tous mes frais et que j'ai pas besoin de ces aides-là, mais c'est pas le cas. En 2009, j'accouche seule. Et c'est parti. Pour une grande aventure. Avec 3 petits bouts et... un à l'école primaire, un maternelle, un chez la nounou à la crèche. Et après, c'est une organisation un peu militaire de se dire, on dépose stratégiquement dans quel ordre on dépose qui, comment. Je les posais des fois au périscolaire à 7h du matin, quoi, les petits bouts que je récupérais à 18h30. Et voilà, et c'est des grosses journées aussi pour les enfants, en fait. Pas que pour les mamans... Eh ben, on a une charge mentale de fou. On fait un planning. Faut mettre en place du relais. Donc, pas hésiter à demander aux voisins, voisines, copains, copines de se dépanner. Après, entre parents, il y a de la solidarité aussi, et notamment entre mamans célibataires. J'ai toujours travaillé. Ben, je pouvais pas financièrement ne pas travailler. J'ai un salaire... En tout cas, je suis au-dessus du SMIC, quoi. Mais je me suis tout de suite rendu compte que c'est très, très difficile de pouvoir faire face à toutes les dépenses. Je complète régulièrement mes revenus. Ben, en allant garder des enfants ou... Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. On a plein de petites astuces de récupérer les fringues, d'aller en vide-grenier, de faire des vide-greniers en tant que vendeur, de privilégier des achats en circuit court et tout ça, de partir en vacances chez les copains plutôt que de louer quelque chose. Voilà. Je sais pas, moi, ce que j'en ai gardé, par exemple, c'est que je fais toujours pipi la porte ouverte. Parce qu'en fait, mon souci, c'était de les surveiller pendant que je prenais ce temps-là, ce besoin. Et que c'est resté, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'a... Moi, ma monoparentalité, ce qui m'a fait... mal le vivre, c'est les côtés institutionnels, voilà, la CAF, l'éducation nationale, de devoir aller demander de l'aide à une assistante sociale, de devoir toujours défendre le fait que bah ouais, si on n'a pas de place en structure d'accueil petite enfance pour aller travailler, c'est quand même compliqué. Et oui, c'est bien de pouvoir prendre une assistante maternelle, mais il faut faire une grosse avance de trésorerie, donc à un moment donné. Comment on fait? Mais après, j'avais l'impression aussi souvent d'être un peu stigmatisée, quoi. Bon, bah oui, forcément, quand on est maman solo et qu'on est au parc et qu'on en a trois, ben, faut les gérer, ça fait un peu plus de bruit que les autres. Voilà, c'est comme ça. On est tout le temps en train de se justifier. Comment on peut faire, je sais pas, les réunions d'enseignants, là, les réunions de l'école, parents-prof. Réunion parents-prof, c'est quand même compliqué quand on en a trois, que les réunions, elles tombent toute la même semaine, toutes à 17h. Donc, ça veut dire qu'il faut négocier trois fois de quitter le travail plus tôt. Enfin, voilà, c'est des choses sur lesquelles, moi, j'ai souvent entendu, bah oui, bah cette maman, elle est pas là, quoi. Bah oui, j'ai pas le don d'ubiquité, donc je peux pas être à trois réunions en même temps, c'est pas possible. Et je peux pas, et il faut que je fasse des choix aussi. Un jour de 2022, de novembre 2022, je reçois un email et je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres de la CAF qui me dit que je vais avoir un contrôle à telle date et que, en gros, j'ai 8 jours pour contacter le contrôleur, lui envoyer tous les éléments, prendre un rendez-vous, qu'il vienne vérifier ici ou si c'était pas possible que ce soit fait en visio, mais qu'il ait tous les éléments. Quand j'ai eu la personne au téléphone, j'ai compris qu'il allait tout vérifier. Et je lui ai demandé pourquoi je l'étais contrôlée. Et il m'a expliqué qu'il y avait 3 raisons pour les contrôles. La première, c'était une dénonciation de l'entourage ou des doutes par rapport aux administrations et au train de vie des personnes. La deuxième, c'était l'algorithme. Et la troisième... social avec un suivi de santé ou des problématiques avec des situations bien précises. Et du coup, je lui ai demandé dans quel cas j'étais et il m'a dit que c'était le cas de l'algorithme par rapport à ma situation. Voilà, donc je lui ai demandé quelle était ma situation. Il m'a dit, vous êtes famille monoparentale, il y a des changements par rapport à vos enfants, tout ça, donc on fait un contrôle. Du coup, j'ai supposé que pour l'algorithme, je représentais quelqu'un qui potentiellement pouvait tricher, quoi. C'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, bon, bah voilà, je suis mère célibataire, mes enfants ont 18 ans, forcément, je cache quelque chose, quoi. 2022, ça correspond à l'année où mon fils, il a eu 20 ans. Et en plus, mes deux aînés ont travaillé un petit peu pendant les vacances. Donc j'avais déjà eu un peu des frayeurs depuis 2021 avec des variations, des dettes. quand cette lettre est arrivée, je me suis dit que c'était peut-être pour justement voir où j'en étais moi. J'ai reçu le courrier, ils m'ont transmis la liste des pièces que je devais fournir. Et j'avais deux choix, soit je les fournissais par email avec un rendez-vous en visio, soit par email avec un rendez-vous en présentiel. Étant donné que moi je travaillais, il fallait que je pose un jour de congé. Donc, poser un jour de congé, on a pris rendez-vous et j'ai fait le choix de le faire en visio. La personne qui faisait le contrôle avait reçu les éléments 8 jours avant le rendez-vous. Donc il avait eu le temps d'aller bien voir tout ce qu'il en était. Après, en visio, il m'a partagé mes propres documents et il a lu toutes les lignes de dépenses ou d'entrée d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je devais justifier de ce que c'était. Moi, j'ai eu peur, alors que j'ai rien à cacher et que je suis pas une peureuse. Mais en fait, la caisse d'allocation familiale, c'est fait pour aider et accompagner leurs usagers. Et on se retrouve dans une situation où quand on devient locataire, on a peur d'eux. On se retrouve dans une situation où là, on veut surtout pas avoir affaire à eux, on sait jamais. Et du coup, moi, je me suis dit, forcément, il va y avoir quelque chose. Ça met un doute fou. De se dire peut-être qu'il y a un truc qu'on a oublié, ils vont éplucher 4 mois de relevé de compte. Les miens et ceux de mes enfants. Ils sont remontés sur 3 ans de déclaration d'impôt. Pareil pour mes fiches de paye, mes contrats de travail. Et puis des questions sur notre façon de vivre. Si on est propriétaire d'une voiture, si on part en vacances... C'est un peu intrusif, quoi. Si on est de nouveau en couple, et si oui, comment on est de nouveau en couple, ils vont chercher la petite bête. Ils lisent toutes les lignes et ils demandent, il y a 150 euros qui ont été virés de un tel, qu'est-ce que c'est? Il a tout noté et il m'a dit qu'il reviendrait vers moi quelques jours plus tard pour faire le bilan et me dire si j'avais un redressement, entre guillemets. Et ensuite, j'ai eu un redressement de 300 euros parce que j'avais mal déclaré mes revenus, je crois, d'activité, notamment par rapport à un des enfants qui avait travaillé dans les 3 mois précédents. Et du coup, bah, je devais 300 euros à la caisse d'allocation familiale. Donc, rebelote, quand ils créent une dette, en fait, ils enlèvent les prestations qu'on reçoit. Donc, 3 mois sans prestation. Mes enfants, ils travaillent pour eux. Ça n'empêche pas de contribuer sur certaines choses, mais c'est quand les jeunes ils travaillent l'été, c'est pour eux, pour se payer leurs petites vacances. Alors c'est sûr que c'est des choses qui sont plus forcément 100% dans mes dépenses, mais l'idée, c'est pas ça. Néanmoins, on est quand même un peu obligé de les mettre à contribution. Et j'ai pu entendre des fois, oui, peut-être que tu gères mal ton budget, ou peut-être que tu pourrais prendre un appartement plus petit, ou... Oui, effectivement, pour avoir un appartement plus petit, on pourrait ne pas faire de sport et aucune sortie. Et quoi qu'il en soit, le salaire, il suffira même pas à couvrir toutes les factures. Alors... Je me rends compte que ma situation de maman célibataire, elle m'a beaucoup appauvrie. Je suis pas propriétaire, il a fallu faire des choix. Ce contrôle, il m'a fait prendre conscience de ça, par exemple. Quand même pas juste, quoi. On les a élevés tout seuls depuis 20 ans, et la CAF vient nous demander nos relevés de compte. Ce serait moins violent si il était défini dans la charte de la caisse d'allocation familiale qu'aux 18 ans des enfants, on faisait un point avec un interlocuteur de la CAF pour voir où on en était et pour qu'on se fasse guider par rapport à nos droits. Plutôt que d'être tiré au sort et se retrouver du jour au lendemain à devoir fournir tous nos papiers. Personne ne demande bah « Alors, comment vous faites? Comment vous avez réussi à faire ça ?» C'est plutôt « Bah, elle gère pas » ou... Quand on est seul et qu'on démarre la journée à 6h du matin au réveil et qu'on la termine à 22h une fois qu'on a couché tout le monde, j'ai pas envie d'une médaille, mais je trouve que c'est plutôt sympa de dire waouh, comment t'as fait pour tenir cette journée, quoi. Après, voilà, c'est la vie et c'est. Et ça pulse dans la maison et c'est cool et il y a plein de moments chouettes et. Mais il y a quand même cette notion-là qui est pas évidente. Offrir des vacances à nos enfants, si on n'a pas des gens autour de nous qui peuvent nous accueillir, c'est quand même très compliqué. Financièrement. Donc même souffler. Même en solo, elles n'ont pas de vacances.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Sarah, je vais avoir 39 ans bientôt et je vis à Montreuil, dans un quartier populaire du Haut-Montreuil, à la Cité de l'Amitié. Alors dans la vie, je suis dans un poste administratif dans le milieu social, dans une association. Et je suis mère d'une petite fille de 9 ans, Aïla, qui a la bouche qui crépite, qui parle tout le temps. Je suis mère isolée depuis la grossesse. Un peu moins de 10 ans, oui. Parce que, en fait, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, celui qui était censé être un ami de longue date avec qui j'avais une histoire qui commençait, ben, il s'est barré, en fait. Et il s'est barré sans un bruit, en fait. Il n'a pas dit « je me casse ». Il a juste arrêté de donner l'heure, le son et l'image. C'est quelqu'un qui s'est déplacé que 8 fois pour voir son petit bébé qui venait de naître en un an et demi. Et du coup, bah, sur l'argent, la juge, elle a statué 150 euros de contribution à l'éducation de l'enfant. Mais le problème, c'est que bah, lui, il ne l'a jamais versé. Et concrètement, plein de fois, j'ai appelé, dans un souci de justice, j'ai appelé la CAF en leur demandant d'aller chercher l'oseille parce que je ne savais pas comment ils vivaient et que c'était abusé qu'ils ne contribuent pas. Ce n'est même pas une question de « moi, j'ai l'ASF, après tout, j'ai l'allocation de soutien familial. Moi, ce n'est pas le fait qu'il me manque cet argent-là. » C'est le fait que c'était pas normal qu'il se dévoie comme ça, qu'il se barre, en fait, encore une fois. Il se barre tout le temps, en fait. Mais non, bah du coup, on s'organise, en fait. On va chercher chez Emmaüs des trucs, on va chercher dans les friperies, dans les machins, dans les dons solidaires, dans les assos de quartier qui font les aides pour la rentrée scolaire. On va faire tout ça. Et on n'a pas le choix. Mais sauf que nous, c'est un calcul permanent. Eux, le seul calcul qu'ils font, c'est père en carton, là, c'est de se dire comment je vais faire pour pas payer la pension alimentaire, alors que c'est un truc, mais honte à eux, en fait, de pas contribuer à la vie de leur enfant. Honte à eux. La première année de ma fille, notamment, les 15 premiers mois, j'avais pas de crèche, je pouvais pas retourner à l'emploi parce que j'avais pas de mode de garde. Et j'avais un ARE de merde, donc une allocation de retour à l'emploi. C'était horrible, j'avais que 900 et quelques euros. J'allais à 930 euros, je crois. Et en fait, comme il y avait eu un problème d'indu avec Pôle emploi, je leur devais de l'argent. Je ne sais même plus pourquoi, c'était une erreur, tout simplement. Et donc, comme je leur devais de l'argent, c'était plus important de leur rendre l'argent que de vivre, que d'acheter des pâtes et que d'acheter du lait et que d'acheter de l'eau pour les biberons de ma fille. Et donc, du coup, bah, ils me ponctionnaient 200 et quelques euros par mois, alors que j'avais 900 euros d'ARE et que j'avais un loyer à 750 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, bah, j'étais à découvert tout le temps. Et puis, plus ça allait, plus ça se creusait. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais faire quoi? C'est pas possible, en fait. Je vis dans un studio à plus de 700 euros. J'en peux plus de vivre comme ça. Enfin, et j'ai pété les plombs et je me suis dit, je vais me battre pour que bah, tout ça, ça change. Bah, concrètement, j'ai dit à la mairie de ma ville que si j'avais pas de place en crèche, bah, j'allais me rouler par terre dans le hall de l'hôtel de ville, qu'il me fallait absolument cette place en crèche, sinon je pouvais pas retourner à l'emploi. En plus, moi, j'étais quelqu'un qui était quand même assez stable socio-professionnellement de base. Et du coup, ma fille rentre à la crèche et là, je vais travailler pour qui ? Pour Pôle emploi. En tant que conseillère à l'emploi. Et après, je me suis réinsérée progressivement, mais ça a été une période hyper sombre, en fait. J'avais le cœur, j'avais le torse en 8, quoi. Même en 12 000, c'était horrible, j'étais pas bien. J'ai pété un plomb, j'ai fait un burn-out, et je suis partie. Donc j'ai fait la fin de CDD, et ensuite j'ai fait un bilan de compétences, qui m'a amenée au métier de formatrice. Et du coup, à la sortie du Covid, c'est là que j'ai postulé dans l'association où je travaille actuellement. Je suis à 1006, un peu moins de 1006 net, avec un loyer à 600 euros, et charges comprises, et je suis dans un logement social. Si tu es toute seule et que tu gagnes 1006 net, déjà, c'est pas BZF, mais si en plus t'as un enfant qui te demande de lui acheter des Kinder, je rigole parce que ma fille veut manger des Kinder. Bref, non, mais en fait, oui, je dirais que je suis précaire à partir du moment où je calcule tout ce que je dépense. J'ai pas le choix. J'explique à ma fille, mais tant mieux, c'est un bon élément d'éducation aussi de lui expliquer que l'argent, ça se jette pas par les fenêtres. Je veux t'acheter un livre, c'est utile. Je veux t'acheter un sac pour porter des objets, c'est utile. Mais je ne t'achèterai pas un objet en plastique qui fait du bruit. Alors, ce que j'ai vécu il y a un an, c'était... On m'a envoyé un courrier pour me demander d'envoyer toutes mes fiches d'impôts de l'année d'avant. Concrètement, on a le nez dans le guidon quand on est mère isolée. Donc, en fait, on se dit, vas-y, je ferai ça demain. Et puis, en fait, demain, c'est 3 mois plus tard, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas envoyé à temps. Donc, au mois de juin, on m'a dit, allez, salut, on te retire tes allocations. APL, prime d'activité... ARS, donc allocation de rentrée scolaire, et donc j'avais plus rien sauf l'ASF, donc les 190 balles grosso modo là. Et du coup je les ai appelés tout de suite, j'aurais dit mais attendez, je vous ai envoyé le courrier là tout de suite, enfin vraiment je me suis empressée dans l'angoisse de faire le truc. Et ils m'ont dit bah ouais mais non c'est trop tard, on a bien reçu votre courrier, pas de problème, on le voit hein, dans le système, ok, au téléphone on me dit ça. Bah, écoutez, je vais quand même demander à faire passer en urgence votre dossier, mais en vrai, vous êtes comme toutes les autres, et je lui dis, bien sûr, je m'en rends bien compte, puisque entre copines, on se parle, et bizarrement, tous les parents autour de moi qui sont concernés par le même problème, bah, bizarrement, c'est que des mères isolées. Concrètement, on se retrouvait en plein été sans rien, sans allocation, rien. Je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire? Je les rappelais tous les 2-3 jours, je crois. Je les ai appelés, je leur ai mis des pressions, ils m'ont dit « bah non, ça va pas passer, votre recours, on a tenté, mais ça passera pas. Donc, vous allez devoir attendre plusieurs mois. On ne sait pas combien de temps, on peut pas vous donner de délai, parce qu'en fait, la pile, elle est énorme. En gros, la pile des dossiers, elle est énorme. » Je leur ai dit « mais vous vous foutez de qui, en fait? C'est vous qui l'avez générée, cette pile. C'est vous qui prenez la décision de nous contrôler comme ça, alors que si ça se trouve, en fait, on vous doit même pas d'oseille. Donc, vous nous contrôlez parce que, potentiellement, on vous doit de l'oseille. » Même 20 balles, on vous les doit, il n'y a pas de problème les gars. Mais en fait, juste, vous pouvez pas nous retirer autant d'argent, autant de pouvoir d'achat qui est de l'ordre de nous permettre de vivre dignement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on était vraiment hyper nombreuses dans mon entourage. J'ai mis un post sur Facebook en disant, mais il y a qui d'autre qui est concerné quoi? Et donc sur mes réseaux sociaux, bam, plein de meufs, que des mères isolées. Que des mères isolées. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai déjà eu l'expérience pour des femmes que j'avais accompagnées d'écrire au président de la République. Je savais que ça fonctionnait. J'ai recommencé. Alors, Monsieur le Président de la République, je vous sollicite au sujet d'une problématique que je rencontre et que nous sommes nombreuses et nombreux à vivre. La CAF procède à des contrôles dont je ne nie pas l'utilité. Cependant, nombreuses sont les mères isolées comme moi qui se retrouvent en ce moment suspendues de tous leurs droits d'allocataires en raison des délais de ces enquêtes. C'est une véritable catastrophe économique pour une famille monoparentale. Certaines ne touchent plus rien depuis janvier. Nous, les familles les plus vulnérables et à la fois les plus ciblées par les contrôles intempestifs et ces suspicions et ces suspensions. Non, il est beau le lapsus. Et ces suspensions de droits vécus comme des punitions. Si je vous écris, ce n'est pas seulement pour alerter sur mon cas personnel, mais sur le système qu'il est nécessaire de dénoncer. C'est insoutenable, ma fille mérite mieux, nos enfants méritent mieux, l'avenir du pays, ce sont eux. Grandir dans la pauvreté peut briser, écorcher, entraver les rêves. Je vous remercie de m'avoir lu et je me tiens disponible pour tout complément d'information. J'ai mis mon numéro d'allocataire et ensuite j'ai eu une réponse assez incroyable. Assez vite, donc ça c'était fin septembre, je reçois un courrier du cabinet du président de la République qui dit « Madame, nous avons bien pris connaissance de votre courrier, tatati tatata, nous avons délégué à qui de compétences, etc. » Et donc au directeur de la CAF du 93. Très très vite. En un jour ou deux jours, je ne sais plus. Je reçois une alerte sur mon application CAF qui me dit « Madame, vous aurez votre argent sous 5 jours ». C'est dingue. Et là, un mois plus tard, le directeur du 93, là, de la CAF, m'écrit en gros, hein, je le dis avec mes mots, « Madame, suite au courrier du président de la République, patati patata, nous vous avons donc versé, nous avons traité en urgence votre dossier et nous vous avons versé. Mais, il y a un mais, sachez que vous nous êtes redevable de quelque chose. Attention, ouvrez votre compte bancaire, montrez-nous, en fait, ce que vous avez comme oseille. Mais il n'y a pas de problème, mon gars, moi j'ai 12 euros d'épargne, en fait. Tu veux qu'on en parle de mes 12 euros d'épargne ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune indulgence sur le fait que j'ai une vie de ouf, une cadence dingue. Et là, pour moi, l'institution, elle nous domine en disant « Attention, mademoiselle, on va vous taper sur les doigts si la prochaine fois qu'on vous demande vos papiers, vous ne nous les donnez pas. » C'était pas mon premier contrôle, évidemment. Hein. C'était la dernière fois, je l'avais fait à la deadline, je crois. Je ne sais plus exactement, mais je sais que l'année d'avant, j'en avais eu un encore. Et je pense que les années d'avant aussi, j'en avais eu, mais je ne sais plus à quel rythme, en fait. J'arriverai pas à dire. En fait, en vrai, on ne sait pas pourquoi ça nous tombe dessus. Parce que en vrai, moi, je veux dire, j'ai pas un profil hyper, je sais pas, qui alerte quoi. J'ai un CDI, je travaille à temps plein. Et je sais, ouais, c'est pas ouf quoi. Enfin, je veux dire, encore si j'avais plein d'activités, de revenus, de plein de choses, peut-être ils se seraient dit, bah attends, on va aller vérifier. Est-ce qu'il y a pas un problème dans la déclaration de ces revenus ? Mais moi, j'ai un seul revenu. Non, c'est clairement la mère seule qui est déclarée mère seule, qui touche la SF. Donc concrètement, en touchant la SF, on est déclarée mère seule, donc on sait. Je pense que c'est ça. Voilà. تذكري لما أمك شافتني نايم بتختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية
C'était Mère isolée sous surveillance, un reportage de Clémence Aleza réalisé par Perret Legras. Merci bien sûr à Marion et à Sarah ainsi qu'à Elisabeth, à Yvonne, à toutes les mères isolées qui ont accepté de nous rencontrer ainsi qu'à Maïté Sifer du collectif Changer de Cap qui a notamment écrit un rapport qui s'appelle Inventaire des anomalies dans les pratiques de la CAF. Merci aussi au collectif Les Mères des Terres. Je vous rappelle qu'il faut lire les enquêtes de la Quadrature du Net, ainsi que, si vous le souhaitez, le livre de Selim Derkaoui, « Laisse pas traîner ton fils, comment l'État criminalise les mères seules ». L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. تذكري لما قلتي لي انك ناوية تتركيني بلا فلوس وبلا بيت